Sud Radio, édition spéciale.
Avec vous sur Sud Radio pour cette édition spéciale entre 10h et midi tout au long de la journée sur Sud Radio. Vous allez retrouver évidemment les différents rendez-vous qui seront en grande partie consacrés à ce terrible incendie hier qui a défiguré, ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui pour en parler, pour vous écouter également 0826 300 300, on va vous donner la parole pour que vous nous disiez ce que vous avez ressenti. Patricia Balme, présidente fondatrice de PBcom International, bonjour.
Bonjour.
Virginie Hélène, présidente de l'Avenir pour tous, bonjour à vous.
Bonjour,
Christian
merci.
De Villeneuve, journaliste politique. Matteo Ghisalberti, bonjour. Qui était avec nous et qui est toujours avec nous, rédacteur en chef de Putsch, le nouveau média franc-tireur. Vous êtes d'origine italienne, naturaliste français, vous nous l'avez dit, vous étiez hier au Place Saint-Michel, pas très loin de Notre-Dame. Et puis vous allez nous parler un petit peu de la réaction en Italie, justement. Et puis on attend Éric Vérague. Alors on a avec nous Mathilde Chouin. Mathilde, non, ok, alors elle est reporter pour Sud Radio. Elle est sur place. On sera avec elle dans un instant. Je voulais peut-être commencer avec les différents tweets politiques, les réactions politiques. Alors Donald Trump a été le premier à réagir. Terrible de voir ce feu, cet énorme feu. Oui, à Notre-Dame, à Paris. Peut-être que des Canadair, enfin des water tankers, devraient être utilisés. Il faut réagir rapidement. Donc oui, c'était ce tweet.
Il m'a un peu énervé,
moi. Ah bah, ce tweet était quand même assez dingue. Il y a Hillary Clinton également.
Il va regarder la télé, il n'y a pas grand-chose à faire.
Qui a réagi, mon cœur est avec vous, Paris, Notre-Dame est un symbole de la capacité des êtres humains à s'unir pour construire des monuments qui nous coupent le souffle. Enfin, beaucoup de témoignages, Nicolas Sarkozy, profonde tristesse devant cette tragédie. La France est touchée dans sa chair, dans son cœur. François Hollande, Notre-Dame est notre patrimoine commun. Enfin, il y a eu énormément de réactions politiques.
Il y a eu Emmanuel Macron aussi.
Vous l'avez trouvé comment, Emmanuel Macron ?
Écoutez, j'ai trouvé qu'il était surtout... il sort d'une période de grande division, et puis tout d'un coup, il a pu rassembler, en tenant la main d'un côté de l'archevêque de Paris, de l'autre côté celle de sa majorité. Donc, et puis cela dit, il a trouvé les mots comme il sait le faire. Ouais. Nous reconstruirons Notre-Dame.
Ouais. Nous reconstruirons Notre-Dame. Patricia Balm, ce matin.
Écoutez, moi j'ai été quand même assez ému d'abord de voir toutes ces déclarations. Chaim Korsia, le grand rabbin de Paris, a été le premier à réagir. On a attendu très longtemps les réactions du Saint-Père, ce qui est étonnant.
Oui, c'est ce qu'on vient d'en parler avec Matteo Ghisalberti. Il y a eu une note de la
salle de presse vaticane.
Et c'est normal que le pape n'ait pas réagi, selon vous, tout de suite.
La communication vaticane, voilà, prend du temps en général. Mais là, je pense qu'il s'agissait aussi de comprendre si effectivement il n'y avait pas de victimes. Vous savez, on n'est pas à Paris, à Rome, on reçoit les choses un peu plus lentement. Après, je pense qu'on rentre dans la semaine sainte, donc il y aura largement...
Oui, enfin, il y avait quand même dans le
groupe... Il y a eu un petit retard quand même.
Oui, et moi je dirais aussi, il y avait surtout dans le contenu quelque chose qui m'a impressionné, pour les croyants que je suis, c'est le mot incrédulité.
Oui.
C'est fou, on rentre en semaine sainte, et puis tout d'un coup, il y a un problème de croyance. Enfin voilà, je pense que le mot n'était pas... Alors je crois qu'il a refait un autre... Il y a eu quelque chose ce matin... Mais moi, ça m'a choqué, honnêtement, incrédulité. Voilà, parce que
le
symbole que représente cette cathédrale en train de flamber, alors que notre église flambe, c'est impressionnant.
Je voulais qu'on fasse un petit tour de table. Christian de Villeneuve, vous, votre réaction, comme tout le monde.
J'y suis allé ce matin,
ouais.
Et j'ai eu un double sentiment. D'abord, j'étais très ému, très ému, parce que j'ai eu les larmes montées, je veux dire. Et puis, en même temps, un soulagement. Parce qu'elle est là, elle est encore là, elle apparaît solide dans ses structures, et donc moi je pense que l'heure n'est vraiment pas aux polémiques. Je crois qu'hier soir on a vécu un grand moment dramatique certes, mais aussi un grand moment d'union et de solidarité, et je crois que ça fait du bien. Voilà.
Oui, sauf certains.
Oui, il y a eu des...
Oui, mais il y a toujours des imbéciles.
Non, vous êtes nombreux, nombreux à nous dire, vous ne parlez pas de ces gens qui se sont réjouis de voir Notre-Dame brûler. Est-ce que c'est la peine d'en parler? Est-ce que c'est la peine
Non, mais
de...
surtout, moi, j'y étais hier soir, je peux vous dire, j'ai passé quasiment de 20h à 2h du matin là-bas. je les ai pas vus, ceux qui se réjouissaient. C'est pas
non,
vrai.
Non, c'était sur les réseaux sociaux.
Moi, personnellement, j'en ai entendu quelques-uns qui voulaient faire un peu de polémique. Et avec la presse étrangère, ils disaient, bah, vous êtes là pour remporter le prix Pulitzer. Qu'est-ce qu'ils foutent, tous ces cathos-là, etc. Mais bon, c'était des... c'était quelques voix discordantes au milieu d'une chorale des gens spontanés qui a commencé à prier.
Il y a eu certaines indécences politiques quand même.
Il y a eu un député du Rassemblement
national, Gilles Le Breton, député européen, qui a tweeté très maladroitement « Notre-Dame brûle, ça symbolise hélas que trop bien l'état de la France sous Macron ». Eh bien, je pense que ce n'était pas le moment.
C'est
un moment d'unité nationale. C'est lamentable. Et bon, est-ce que ça ne montre pas le vrai visage du Front National ?
Il y a eu aussi quelques tweets, dont un qui a été énormément repris d'une jeune femme du Bureau National de l'UNEF. Quand les gens vont pleurer pour des bouts de bois, voilà, vous aimez trop l'identité française.
Mais vous savez...
Alors qu'on s'emballait objectivement de votre délire de petit blanc. Voilà. Donc il y a eu quelques tweets. On peut en parler de ces tweets-là, évidemment.
Je pense que ce type de drame met en évidence aussi le manque de culture religieuse qu'on peut avoir, parce qu'on anesthétise tout en disant qu'il ne faut pas parler des religieux, et malheureusement, après, on se retrouve devant des gens qui sont incultes de ce point de vue. Et inculte, ça veut dire qu'ils ne respectent même pas
on est au-delà de l'inculte. C'est autre chose. C'est autre chose que de l'inculture. Là, c'est de la haine, carrément.
Ça naît de l'ignorance, de la non-connaissance de quelque chose, et on pense que dire une chose comme ça, ça fait apparaître plus laïque du laïcard.
Non, mais je pense que vraiment...
C'est la culture du buzz.
Oui,
mais c'est des tweets qui ont été retirés après, par la suite. Donc
ça ne correspond pas du tout à ce qu'on est tous en train de vivre, et comme on est dans un deuil, très honnêtement, honnêtement, je vois les gens...
Très affectés.
Très affectés, croyants ou pas croyants.
Exact.
Et c'est là où je vous rejoins. Ça fait une unité, finalement,
Ce matin, il y a aussi des gens qui disent Pinault, Arnault vont donner de l'argent. Donc Bernard Arnault, François-Henri Pinault, qui ont décidé de donner 200 millions pour Bernard Arnault, 100 millions pour François Pinault, qui disent, qui trouvent à redire en disant ils sont indemnis, il y aura une exonération d'impôts.
Ah, mais la lutte des classes continue malgré tout.
Donc,
on vilipende les riches.
Bah, cette émission a l'habitude de donner des coups de chapeau. Moi, j'ai envie de donner un coup de chapeau à Bernard Arnault
et à François Pinault. Absolument.
Moi aussi, je suis d'accord, parce que il faut quand même réagir rapidement, parce qu'il y a un trésor qu'il faut sauver. Et moi, personnellement, je pense un peu à la latine, l'argent n'a pas odeur en ce cas, et je remercie aussi Bernard. C'est une opinion personnelle, mais pour vous dire que aussi à l'étranger, il y a un recueillement autour de la France, autour de Français. Les unes des journaux italiens ont tous des formules très fortes. Déjà, La Vérité, par exemple, dit que Notre-Dame brûle. Et puis, on parle, par exemple, de le 11 septembre de l'Europe chrétienne. Paris, un coup
pas de victime.
Au cœur.
Il n'y a pas de victime.
C'est
la grosse différence.
Heureusement qu'il n'y a pas de victime, mais c'est vrai qu'à un moment, on a eu peur qu'une des tours tombe, et on a pensé très fort à
ça. On a Mathilde Chouin, donc, qui est reporter pour Sud Radio. Vous êtes sur place, Mathilde. Racontez-nous un petit peu ce que vous voyez, ce qui est l'ambiance. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus voir Notre-Dame ce matin?
Ouais, énormément de monde. Vous en parliez là il y a quelques minutes. C'est une ambiance très particulière ici. Toute l'île de la Cité est bondée de monde, sur tous les quais, sur le pont qui est accessible au public. Il y a des camions satellites du monde entier. Il y a l'Ukraine qui est là. Il y a le Vietnam, le Portugal, le Japon. Il y a des télés du monde entier, des directs qui ont lieu tout le temps. Là, ça n'arrête pas. Je suis derrière, en fait, la cathédrale Notre-Dame, du côté de la Charpente, qui est éventrée. Et vous voyez, il y a un flux incessant de gens qui passent, qui s'arrêtent de prendre des photos, ça n'arrête pas.
Et vous,
des gens qui pleurent beaucoup.
C'est ce que Christian Binoc disait. J'imagine Virginie aussi.
Il y a une émotion très dense.
Moi, j'ai pleuré.
Alors, nous a rejoint. Merci beaucoup. Merci, Mathilde. Nous a rejoint Eric Vérag.
Moi, j'ai pleuré hier soir. Et si je peux rompre un peu l'esprit unanimiste que j'entendais il y a 5 minutes en vous rejoignant, moi, je suis monté sur les Hauts-de-Belleville à Paris. Pour voir le spectacle hier soir, entre guillemets, le triste spectacle. Et j'étais assez frappé, puisque vous savez qu'on a une vue plongeante sur Paris depuis Belleville, et que c'est un quartier à majorité musulmane dans Paris. Et j'étais très impressionné de voir qu'il y avait une vraie foule qui s'était rassemblée en haut de Belleville pour voir la ville avec ce triste spectacle, mais que la foule, dont beaucoup de jeunes pleuraient, était une foule essentiellement chrétienne, entre guillemets, et que les habitants du quartier, qui sont majoritairement d'origine étrangère musulmane, eux, étaient totalement indifférents au spectacle et n'y assistaient pas. Et je tiens quand même à dire, puisque j'entends le dissensus qu'il y a entre, amicalement, ce plateau et, à mon avis, ce que perçoivent un certain nombre de vos auditeurs, c'est qu'en réalité, de mon point de vue, pour beaucoup de Français, cette disparition de Notre-Dame, ou en tout cas ce ravage, c'est notre 11 septembre à nous. C'est un moment de communion nationale, au-delà de toutes les divergences d'opinion qui peuvent exister en France. On le voit bien dans l'union nationale qui se fait politiquement. Et je pense que ça va laisser des traces sur le fait qu'une partie des habitants de ce pays est totalement indifférente.
Oui et non, parce qu'hier, ces habitants qui faisaient remarquer tous ces tweets qui se réjouissaient en disant voilà, parce que vous vous souvenez qu'il y a eu avant-hier, on en a parlé, ce garçon qui s'est moqué Hugo qui s'est moqué de la Mecque, c'est en gros juste retour des choses. Et ces gens-là se sont fait, mais déchirés par la communauté musulmane, par une partie en tout cas de la communauté musulmane. C'est ce que disaient les habitants hier. Donc après, c'est compliqué.
Mais je pense que dans recueillement national et dans le recueillement collectif, je ne dis pas qu'il y a une hostilité de la communauté musulmane, je dis qu'il y a une indifférence vis-à-vis de la portée du symbole.
Parce que, mais en même temps, Notre-Dame, c'est au-delà de la chrétienté, c'est un monument historique, c'est un bâtiment qui représente l'histoire de France,
qui transcende. Notre-Dame, de mon point de vue, n'est pas chrétien, puisque vous savez par exemple que les protestants ne reconnaissent pas le culte de la Vierge. Donc c'est un monument catholique et un monument français. Et en réalité, l'espèce de culte que les Français, que beaucoup de Français ont pour cette image de la fécondité qu'est la Vierge, qui est un vieux culte bien antérieur à l'Église. Et je pense que là, on a en effet une rupture d'identité entre différentes composantes du territoire national.
Valérie disait une chose très juste tout à l'heure, faut-il en parler ? Faut-il donner de l'écho à ces gens qui n'aiment pas la France ?
C'est une communauté qui problème de positionnement.
Je dis ces gens,
moi, c'est
cette
vrai que
communauté.
Je suis mal élevé. Je pense que toutes les vérités sont bonnes à dire.
Alors, Virginie.
Mais moi, je veux rebondir sur l'aspect catholique, justement, de cette cathédrale. Pour redire que la France, certes, a inclus les religions qui étaient païennes, enfin, qui étaient
le polythéisme
antique, bien sûr, et celte et grec, etc.
Indo-européens.
Bien sûr. Mais là, justement, unifié dans le monothéisme, et surtout ce monothéisme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la fécondité de la mère. On vient de perdre Notre-Dame. Enfin, on ne l'a pas perdue, justement. C'est ça qui est très important. Elle n'est pas perdue. Elle est à rebâtir. Et dans cette réédification, évidemment qu'on entend bien, et là, je parle aux croyants, nous sommes aujourd'hui le jour des confessions, du pardon. Nous entendons bien que nous devons réédifier, nous, les croyants, notre propre foi.
Je ne suis pas croyant, cher ami.
Je vous regarde, je ne sais pas où sont les croyants.
Tout le monde ici n'est pas forcément catholique.
C'est bien ce que
ce n'est pas un sujet catholique.
Non, ce n'est pas un sujet catholique.
On part de sa construction qui était catholique et qui était plus qu'une religion, qui était l'état de droit de notre pays.
C'est le sujet de tous les Français qui aiment la France et qui sont attachés au patrimoine français.
Bien sûr, maintenant.
Allez, on se retrouve dans un instant. On aura Mathieu en ligne qui est guide touristique, qui va nous raconter un petit peu comment lui vit tout ça. À tout de suite.
Sud Radio, édition spéciale.
Avec vous sur Sud Radio, édition spéciale jusqu'à midi. André Bercoff également, tout de suite après, continuera de vous parler de Notre-Dame de Paris, de l'immense émotion partout dans le monde, en France évidemment. On en parle avec vous. On a Mathieu en ligne avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour Anne-Hérie, bonjour
vous,
à tous.
Vous êtes guide touristique, donc c'est peu de dire que Notre-Dame, vous la connaissez bien.
J'ai une petite agence de guides dans Paris, avec une dizaine de guides, et donc je crois qu'il n'y a pas un jour à Paris où on n'amène pas un petit groupe de touristes visiter Notre-Dame. Alors, deux choses, bien sûr, l'effroi, la sidération et la grande tristesse en tant que natif de Paris, et puis élevé dans une famille catholique, donc après cet incendie terrible. Après, en tant que gérant de mon agence de guide dans le tourisme, grande inquiétude, grande inquiétude. Je vais mélanger un peu tous les sujets, Valérie, un peu exprès, parce que c'est un petit peu ce qui remonte, moi, de mes clients à l'international, que ce soit des Asiatiques, des Russes, des Américains, des Européens. On a vu récemment des images du l'Arc de Triomphe saccagé, vandalisé, et avec une France un peu impuissante devant ces images-là. On a vu une mise à sac des Champs-Élysées avec aussi une certaine impuissance de la France à agir au moment. Et on a vu hier un petit peu, je trouve aussi, pendant des heures, deux malheureuses, et je ne remets pas du tout en cause le courage des pompiers que j'admire au plus haut point, mais j'étais un peu effaré de voir malheureusement qu'il y avait deux malheureuses lances d'incendie qui tentaient tant bien que mal d'atteindre les flammes avec grande difficulté. Je sentais qu'on n'était pas tout à fait équipé ni préparé à la hauteur du problème.
Alors à Mathieu, qu'on n'y connaît pas grand-chose en matière de... On a un pompier avec nous qui va intervenir, mais de ce que j'ai entendu, moi, c'est que ces lances qu'on voyait arroser étaient justement de... Enfin, on va lui laisser la parole, mais qu'ils sont entraînés à cela. J'ai entendu un des responsables de la sécurité dire qu'il y avait des alarmes incendies, parce que vous êtes nombreux à poser la question. Il y avait des alarmes incendies qui ont fonctionné, il y avait des pompiers qui passaient tous les jours pour vérifier les travaux, et que, en fait, ce début d'incendie, alors on en saura plus évidemment après l'enquête, mais que les pompiers étaient parfaitement entraînés à cela. Alors on a en ligne avec nous Jean-Michel Piedalu, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes secrétaire général du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Vous venez d'entendre ce que dit Mathieu. C'est vrai qu'on a eu cette image de cette petite lance qui envoyait de l'eau et on avait du mal, on vous sentait impuissant. Alors expliquez-nous ces images et comment fait face à un feu comme celui-là.
Alors oui, effectivement, c'est une image, mais en tout état de cause, vous imaginez bien que c'est pas la seule chose qu'il faille retenir. Moi, déjà, ce que je voulais dire, vous savez, 22 heures, quand j'ai vu effectivement l'état de la situation, je me suis dit, c'est pas possible, ça va propager et rien ne sera sauvegardé. Mmh. Je pense que le travail, justement, de mes collègues de Parisiens a été considérable, puisque aujourd'hui, la structure est préservée, aujourd'hui, les deux tours sont préservées. Bon, effectivement, ils ont fait la part du feu. Je pense que de toute façon, vous savez, le risque zéro n'existe pas. Oui, certainement, c'était un chantier considérable. Aujourd'hui, on a vu les échafaudages qui étaient installés, et ainsi de suite. Donc, je ne peux pas imaginer que sur une installation classée au patrimoine mondial de l'humanité, tous les jours, il n'y ait pas une visite qui permet justement de voir l'état d'avancée des travaux, de voir éventuellement les passages en cas d'incendie, mais aussi en cas de blessés. Je pense notamment aux ouvriers qui travaillent sur les lieux. Donc, forcément qu'il y a des reconnaissances qui sont faites, mais vous imaginez 90 mètres de hauteur, ça a pris en toiture, forcément qu'on n'a pas aujourd'hui les échelles appropriées qui devraient, à mon sens, faire 100 ou 110 mètres pour... D'abord, l'investissement de tel matériel serait très mal vu de par nos élus, d'une part, parce que vous savez qu'on coûte toujours trop cher, et puis d'autre part, forcément qu'elle servirait peut-être jamais. Bon, malheureusement, sur ce cas de figure, oui, elle aurait servi, mais en tout état de cause, il y a aussi des éléments, notamment le vent. Hein, je voyais le vent sur les images qui a propagé également l'incendie. C'est la faute à pas de chance, tout simplement. Voilà.
Et les canadairs, et pourquoi n'a-t-on pas utilisé les canadairs?
Parce que, écoutez, les canadairs s'utilisent en milieu naturel sur des feux de forêt, bien évidemment, mais la puissance de l'eau qui est déversée aurait de toute façon, à un moment ou à un autre, fait des dégâts considérables.
Effondrer les structures.
Qu'aujourd'hui. Bien plus qu'aujourd'hui. Alors, il faut penser aussi que si les canadairs, là, forcément, il n'y a plus de pompiers en dessous, là. C'est juste pas possible. Vous imaginez retirer tous les pompiers pour que les Canadiens. Enfin, c'est quelque chose d'inimaginable. Hein, d'imaginer qu'un Canadair puisse venir pour éteindre une tour en feu en plein Paris, c'est juste inimaginable.
Ouais, ou prendre l'eau. Et est-ce qu'il y a eu deux départs de feu de ce que vous avez pu entendre ou ce dont vous avez eu connaissance?
J'en sais rien du tout. J'ai pris, je suis pas sur place. J'ai pris effectivement toutes les informations qui arrivaient les unes derrière les autres. On n'en sait rien. Malheureusement, ce type de sinistre arrive quand même fréquemment. Hein, vous savez, sur les chantiers, les rénovations de toitures, d'étanchéité, qui sont avec des chalumeaux, qui sont voilà sur sur une structure essentiellement de bois et très sèche évidemment. Donc, bien évidemment, c'est une allumette. Hein, donc on a bien vu que c'était parti très 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 vite. Alors deux départs de feu peut-être pas. Et puis je suis en train de vous parler d'ouvriers. À l'heure où je vous parle, j'en sais fichtrement rien. Peut-être que c'est autre chose. Hein, mais en tout état de cause, enfin ce qui est arrivé et la force et de la propagation, c'est juste parce que effectivement tout était très sec, parce qu'on était dans un milieu hostile sur ce type de sinistre. Et puis il faut dire aussi qu'il y aurait peut-être eu des possibilités d'acheminement pour les sapeurs-pompiers sur ces toitures, sauf que les escaliers dans quel état, et puis il n'y a pas 50 000 possibilités d'accès, et puis donc vous savez, je pense que tout ça c'est encore trop tôt hein, pour. Mais moi très sincèrement aujourd'hui c'est pas non plus pour défendre mes collègues, mais quand même quand on voit le travail qui a été réalisé,
ils ont sauvé la structure
qui est existante, chapeau, bravo quoi.
Monsieur, restez avec nous, on a juste quelques secondes encore, on vous retrouve dans un tout petit instant si vous le pouvez, merci, à tout de suite.
Sud Radio, édition spéciale.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio avec Éric Vérague, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Christian de Villeneuve, journaliste politique. Patricia Balme, communicante, présidente fondatrice de PBcom International. Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch. Et Virginie Tellen, présidente de L'Avenir pour tous. Et nous sommes en ligne avec Jean-Michel Piedalu, secrétaire général du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Et Patricia Balme, vous vouliez lui poser deux questions.
Oui, monsieur, je voulais vous poser deux questions. Bon, d'abord, évidemment, bien entendu, on soutient tous l'action de ces hommes de courage que sont les pompiers. Mais je voulais vous poser deux questions. Vous avez évoqué l'idée d'un chalumeau qui aurait pu provoquer cet incendie. Et vous avez également parlé de l'accès difficile des pompiers sur les lieux. Que voulez-vous dire concernant le chalumeau ? Un chalumeau aurait été, serait resté allumé ?
Non, écoutez, j'ai pris cet exemple tout simplement de par l'expérience qui est la mienne sur ce type de sinistre, mais pas seulement sur des monuments comme ceux-là. On a ça dans des établissements recevant du public et ainsi de suite. À partir du moment où on a des ouvriers qui travaillent sur les structures, il est bien entendu que il y a toujours ce risque puisqu'on travaille avec des outils tels que effectivement le chalumeau hein, quand les ouvriers refont des déchets noirs en zinc, quand refont des travaux d'étanchéité, ils travaillent souvent avec ce type de matériel. Alors je ne sais pas si c'était le cas.
Est-ce que quand l'incendie a débuté, il y avait toujours des ouvriers sur le chantier ?
Écoutez, j'en sais fichtrement rien. J'ai cru comprendre qu'il avait débuté aux alentours de 18h30. Je ne sais pas à quelle heure les ouvriers terminent, mais
rarement à 18h.
J'imagine bien que si les ouvriers avaient été là, c'est eux qui ont peut-être donné l'alerte, si toutefois c'est le cas. Mais vous savez, tout ça, c'est vraiment...
Il y a une enquête qui est en cours. Il y a une auditrice qui nous dit, je voudrais savoir si l'enquête est terminée. 40 ans de l'équipe de Sud Radio, on dirait que c'est le cas. On n'a jamais dit ça, Laurence. Je suis désolée que vous interprétiez les choses comme ça. Il y a une enquête qui est en cours. On évoque des hypothèses de départ de feu. Il y a une enquête qui va être longue, qui va être compliquée. Il y a un tweet qui est assez intéressant de quelqu'un qui s'appelle Jibas, donc je vous conseille d'aller lire en entier ce que son père, qui visiblement connaît bien ce type de départ de feu, qui explique que ça peut être une réaction de pyrolyse qui continue, qui démarre silencieusement. C'est une réaction qui progresse dans la pièce de bois et qui gagne de proche en proche jusqu'à atteindre une partie exposée à l'air, et ce qui permet enfin à la fumée de s'échapper, mais il est trop tard. Est-ce que vous avez été surpris par la violence du feu ? Parce que certains dont Michel Chevalet ce matin sur CNews qui émettait des doutes, ou en tout cas qui se disait surpris par la violence du feu.
Mais on est toujours surpris par la violence du feu. Là, sans aucun doute, ça a été effectivement une propagation extrême. La raison pour laquelle ça a été une propagation extrême, on n'en sait encore une fois fichtrement rien. Est-ce que le bois était traité? S'il était traité, avec quoi? Enfin, vous savez, il peut y avoir moult explications. Donc, vous le disiez, une enquête est en cours. Il faut attendre les résultats de cette enquête. Mais à mon avis, ça sera très long. Hein. Ouais. Donc voilà. La seule chose qu'on va, à mon avis, connaître dans les prochaines heures, c'est si oui ou non les ouvriers intervenaient et s'ils intervenaient avec quoi. Donc, ça pourrait être un début de réponse.
Ouais.
Voilà.
Ouais, mais ils sont auditionnés en tout cas par la brigade criminelle de la police judiciaire. Et ce sera effectivement une enquête longue et difficile.
Oui, qui va durer. C'est une enquête qui va durer.
Sur les voies d'accès, vous savez, dans ce type de construction, il y en a très très peu de voies d'accès.
Alors justement, monsieur, pardon de vous interrompre, mais quelqu'un d'un représentant d'un syndicat de pompiers a expliqué hier soir que l'accès à Notre-Dame avait été extrêmement difficile compte tenu des embouteillages dans Paris
des
hier soir.
Qui étaient bloqués,
et des ponts
etc.
qui étaient bloqués.
Donc ça a ralenti le travail des pompiers.
Il ne faut pas confondre l'accès effectivement de circulation pour arriver sur le lieu de l'intervention et puis l'accès même au comble dans le monument. Hein. Moi, je vous parlais de l'accès au comble dans les monuments, évidemment. Où là, il y a très très peu de voies qui sont possibles. Donc, il suffit que cette voie d'accès ait été bloquée pour une raison X, Y ou Z, ça devient compliqué. Mmh. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on oublie par rapport à ça, tout ce qui a dû être fait en dessous sur la protection, parce que balancer de la flotte, c'est bien, mais vous savez qu'on tient aussi à protéger, et justement dans des bâtiments comme ça, toutes les œuvres d'art, ça a dû être fait et manifestement bien fait par les collègues, mais c'est un travail considérable qui est réalisé d'une manière un peu concomitante quand même.
Hein. Ouais. Merci beaucoup, merci d'avoir passé ce moment avec nous, Jean-Michel Piedalu, donc secrétaire général du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Beaucoup, beaucoup de dommages qui sont rendus aux pompiers.
Moi, je voulais rebondir, Valérie, justement, sur ceux qui sont rentrés à l'intérieur, qui sont allés jusqu'au trésor. Ouais. La première chose, moi, à laquelle je pensais, c'était la couronne, évidemment, d'épines, qui est unique, puisque c'est celle du Christ. Enfin, c'est ce que nous croyons, bien sûr. Et qui a pu être sauvée avec la tunique de Saint-Louis, avec le bout de la croix et les clous. Sachez que normalement, il y a une vénération qui a lieu tous les vendredis depuis un mois. Et il y a la grande vénération toute la journée, vendredi prochain, qui est le vendredi saint. Voilà, et je me disais, et peut-être nous ne pourrons pas. Et puis si, et un homme a été blessé pour aller chercher cette couronne. Moi, je veux le remercier ici et dire que nous sommes très touchés.
Matteo, les avertis.
Je voulais rebondir sur la non-union nationale qui a été observée par Eric tout à l'heure. On en parlait.
Depuis Belleville, il faut dire.
Depuis Belleville, effectivement.
Paris. Depuis l'île de la Cité, ça s'est pas vu.
Je suis pas surpris dans le sens que la non-union nationale, on l'a déjà vu dans les ronds-points et chez les Gilets jaunes. Il y avait les Gilets jaunes et il manquait toute une partie de la France. Il n'y avait pas les riches, comme on a dit souvent, mais c'était pas ça la question. Non, je pense aussi que cet événement de Notre-Dame nous a tout fait craindre un nouvel acte anti-chrétien, parce que cette année on en a déjà eu pas mal.
66
depuis de l'année.
Symbolique.
Voilà. Que c'est celui-là.
Le dernier encore pour un départ de feu à volontaire à Saint-Sulpice il y a 2 semaines. On en parlait d'ailleurs ici avec vous, Valérie. Cela montre que, de toute façon, il y a la nécessité de prendre en considération tous les menaces qui concernent les lieux de culte, parce que ce n'est pas seulement des lieux de culte, c'est une question aussi de sécurité nationale et de sécurité des citoyens. Je me demandais comment c'était possible au lendemain de l'acte 18 qu'on avait vu amplement se dérouler sur les Champs-Élysées.
Tout a brûlé,
comment c'était possible qu'on brûle une église dans le centre de Paris le lendemain. Donc je me suis demandé.
C'est-à-dire quoi? Vous faites référence à Saint-Sulpice?
À Saint-Sulpice.
Oui, parce que c'était des vêtements d'un SDF qui ont été abandonnés. Je ne sais pas si on peut tout mélanger.
On est devant la mairie du 6e.
Moi, je réponds. Il faut faire très attention avec à la fois la lutte des classes et la guerre des religions.
C'est deux choses complètement différentes.
C'est complètement différent.
En tout cas, au lendemain de cet incendie tragique, il faut être très prudent pour manier tout ça.
Tout à fait.
Il faut rester vraiment dans l'idée de l'unité nationale.
Il ne faut pas oublier que...
Il ne faut pas alimenter des fausses polémiques.
Il ne faut
pas oublier qu'une partie de notre pays ne participe pas. Voilà.
Des polémiques, je pense qu'il y en aura forcément. Il y en a
déjà. Oui, il y aura un temps pour les polémiques.
Oui, il y aura un temps pour les polémiques.
C'est ce que je voulais dire.
Moi, je voulais qu'on parle aussi de l'aspect politique du président de la République, donc qui devait s'exprimer hier soir à 20h. Qui a décidé de...
Il a bien fait.
C'était impossible pour lui, Patricia Ball.
Quand l'incendie a démarré, à 18h30, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite fait un tweet en disant « Il ne peut pas s'exprimer ce soir ». Maintenant, nous sommes dans la Semaine Sainte, qui a commencé. Ouais. Je ne vois pas comment le président pourrait s'exprimer avant le lundi de Pâques.
Même mardi, je pense. Parce que...
Ah bah pas le lundi de Pâques.
Mardi, oui.
Cher il Patricia, faut attendre, quelle leçon. Lui qui se prenait pour Jupiter... Voilà rappelé à l'ordre par la religion catholique.
Un point
par
de vue.
Par la résurrection,
Mais comment est-ce qu'il va réussir à reprendre la parole et à transformer...
Il faut la prendre quand il sera audible.
Oui, c'est ça. Pour l'instant, il n'est pas audible et il ne peut pas parler.
Je pense tout simplement qu'il faut que les Français reprennent leur souffle, qu'ils soient pratiquants ou non, catholiques ou non. Exactement. Voilà. Effectivement, c'est la Semaine Sainte, donc respectons
donc nous allons prier.
Cette semaine pour les pauvres.
C'est la moindre des choses.
Je sais qu'Élysée, cela dit, ce matin, il se posait quand même la question.
Aujourd'hui.
Oui, exactement. Exactement. Parce que je crois que c'est pas. Je pense pas que ce soit possible. Comme je dis, je pense qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas aux divisions, n'est pas au débat, n'est pas à la contradiction. Donc, essayons de passer cette semaine le plus sereinement possible. Et puis, la vie politique doit reprendre ses droits mardi prochain.
Et là où je te rejoins, ce matin, Jean-Luc Mélenchon a publié un texte absolument magnifique.
Oui, très beau texte.
Très beau texte. Bon, et on sait que Jean-Luc Mélenchon n'est pas forcément...
C'est l'homme des paradoxes.
Oui.
Mais absolument.
Il a été brûlé par la foi.
C'est ce qu'il veut. Je veux dire par là que l'unité politique pourrait durer quelques heures, quelques jours.
Oui, ça fait du bien.
Mais il y a quand même quelque chose de fascinant dans ce pays dont on dit plein de mal et qui fait l'objet d'un bashing permanent.
Oui.
C'est que c'est vrai qu'on est au bord d'un grand nombre de gouffres politiques, intérieurs, etc. Mais ce qui compte, et c'est quand même, je trouve, ce peuple français est un grand peuple fascinant, il est capable de s'unir parce qu'un élément de son patrimoine est en danger.
Absolument.
Ouais. Et c'est vrai qu'en France, il y a une supériorité du destin national sur toutes autres considérations qui fait quand même que c'est un très beau pays.
Oui, et si on doute des racines chrétiennes de la France...
Je le redis, la Vierge Marie, je ne suis pas sûr que tous les chrétiens se retrouvent en elle.
Mais bien sûr
que les catholiques,
Mais tu as raison de
souligner. Pardon. En revanche, c'est vraiment elle qui fait la religion catholique. Et quand ça
catholique,
fait, on
mais pas chrétienne. Il y a plein de chrétiens qui ne reconnaissent
Notre-Dame.
Pas de déité
la cathédrale.
Vierge.
Mais nous non plus.
Alors, on a deux appels. On a Antoine qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour.
Vous vouliez parler des dons, c'est ça, de l'appel aux dons?
Oui, en préambule, j'ai ressenti une émotion très forte. Oui. J'ai pensé à l'émotion qu'ont dû ressentir les Parisiens en 1871 devant l'incendie volontaire du palais des Tuileries, rasé 10 ans plus tard.
Oui.
Oui, mais concernant les dons, on peut réactiver une loi de 1962, vous savez, les lois Malraux, les lois sur les monuments historiques, qui permet des avantages fiscaux importants. Mmh. Il me paraît très nécessaire de faire un avantage fiscal exceptionnel, très significatif, par exemple 75% des dons déductibles des impôts, un crédit d'impôt, c'est-à-dire que si vous n'êtes non imposable, vous voulez verser 100 €, eh bien l'État vous rend 75 €, vous fait un chèque.
Ouais.
Et ça démontre encore une fois, et là je fais déjà de la polémique, ceux qui se lamentent le plus, les politiciens qui se lamentent le plus, sont ceux-là même qui pendant des années ont diminué d'une manière absolument lamentable le budget du ministère de la Culture.
Mmh.
En 5 minutes, deux grandes fortunes ont mis plus d'argent, ont mis deux fois plus d'argent que n'en a mis le ministère pour rénover la cathédrale.
Ouais.
Ça
en
dit long.
Ouais.
Eh bien, redonnons. Et maintenant, que ce soit des Américains, peut-être demain des pétromonarchies, qui vont largement financer,
Mais ça me paraîtrait plus normal que ça soit nous, Français, qui le fassions d'abord.
Mais vous savez que ce sont les Américains qui contribuaient le plus à la restauration de Notre-Dame de
Versailles.
De Paris. Je ne suis pas persuadée que le Qatar et l'Arabie Saoudite participent, mais bon, pourquoi pas, hein, mais c'est peut-être un jugement de ma part. Mais c'est vrai que les Américains donnent beaucoup. Hier, c'est Jean-Jacques Ayagon, donc ancien ministre de la Culture, qui a demandé est-ce qu'il y a une réduction, donc ça va dans votre sens, Antoine, de 90% de remise d'impôts, de déduction fiscale. Donc je ne suis pas sûre que l'État ait suffisamment les moyens pour ça. Mais en tout cas, une incitation fiscale, je pense que ce serait une bonne chose. Non,
ça va devenir une cause nationale. Donc, oui, ça, je pense que, donc, voilà. Et puis l'État est responsable, parce que c'est l'État qui est responsable de l'entretien, de la construction des cathédrales.
Absolument, qui lui appartiennent.
Mais effectivement, ce qui est assez... Enfin, je ne sais pas si le mot est cocasse, c'est les grands patrons qui donnent 300 millions en tout.
Si on fait
et, Valérie,
90%.
Et Valérie Pécresse qui dit que la région va débloquer 10 millions. C'est-à-dire que la disproportion entre les moyens de l'État, de la région...
Mais
et
ça,
ceux
c'est pas nouveau maintenant.
Non, c'est
les entreprises
le niveau
qui,
de
qui ont l'argent.
Vont donner.
Là, c'est
et
pas des entreprises, c'est des fortunes personnelles.
Oui, enfin d'accord.
Il y a des Français qui donnent 20 euros, d'autres qui donnent 100 000 euros, 10 000 euros, peu importe. Moi, je pense que l'idée de la déduction fiscale, c'est vraiment le moment de le faire. Pour une cause.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu économique derrière tout ça qui est quand même pas, hein, qui est pas mince. Et on entendait tout à l'heure le responsable d'une agence touristique. L'image qu'on voit à Paris depuis 6 mois à l'étranger. Les samedis, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées. Aujourd'hui, la Notre-Dame de Paris.
Je ferai un pas même en arrière avec les attentats à Paris.
Mais on peut même se poser la question pour samedi prochain. Qui va avoir l'audace d'aller casser dans Paris?
J'espère qu'ils ne vont pas casser, parce que c'est Pâques.
Ce n'est pas envisageable.
L'image de Paris aujourd'hui,
elle est grave. Pareil, qui va oser aller casser dans Paris?
Je pense que...
C'est annoncé. En tout cas, c'est annoncé.
C'est annoncé.
Mais justement,
depuis un mois.
Justement.
Ouais, ils ont annoncé
et je pense à cet effet.
Oui, on attendait un samedi très...
Valérie,
la préfécture
musclé.
Attendait un pour samedi assez première... très, très dur. Oui.
Ah bon, Valérie, compte tenu des circonstances et pour la première fois, je pense que le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur pourraient interdire la manifestation de samedi dans Paris.
Dans Paris.
Et là, c'est vraiment, à mon avis...
Vous allez faire réagir nos auditeurs.
Peu importe, ce sera le week-end de Pâques, ce sera un moment quand même d'unité nationale. Ils ont déjà pas, il n'y a pas de liberté de manifester quand on vit un drame pareil.
Oui, mais ils n'ont déjà pas eu leur restitution de leur grand débat. Alors si en plus on leur dit vous manifestez pas,
vous savez
honnêtement que
je suis pas l'avocat des gilets jaunes.
Pas tous en même temps. Éric Vérac.
Deux choses, c'est que d'abord, si Macron ne veut pas être accusé d'instrumentaliser le drame, il ne faut surtout pas qu'il interdise.
Non. Voilà. Ben non.
Deuxièmement, je pense qu'en termes de tranquillité publique, d'ordre public, alors qu'il est prévu qu'il y ait des milliers de gens qui viennent de toute l'Europe pour casser à Paris, essayer d'interdire cette manifestation, c'est se promettre à un désordre, à mon avis, démultiplié.
Absolument. On se retrouve dans un instant. On continue. 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, édition spéciale.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio pour cette édition spéciale tout au long de la journée sur Sud Radio avec vous, avec vos appels 0826 300 300. On va avoir tiré dans un instant. Mathéo, je vous ai coupé la parole juste avant.
Pas grave. Oui. Je voulais seulement dire que je ne fais pas l'avocat des Gilets jaunes, mais si cette manifestation est annoncée pour samedi, déjà, je pense qu'il y aura pas mal plutôt de Black Bloc, que donc on pourrait tranquillement arrêter aux frontières jouer effectivement les mesures qui d'ailleurs ont été ajoutées avec la loi anti-casseurs. Et puis je pense aussi que parmi les gilets jaunes, il y a beaucoup de gens de bon sens qui pourront décider de ne pas aller manifester ou aller manifester ailleurs.
Ou alors c'est à eux de faire le ménage.
Mais chose que je pense qu'ils ont commencé déjà à faire depuis longtemps. Mais malheureusement, voilà, il y a aussi des idiots
qui sont le black
non,
box.
Non, mais là, ce qu'on annonçait, ce qu'annonce la préfécture, ne sont pas des gilets jaunes, ce sont des black blocs qui viennent pour casser. C'est pas absolument.
Malheureusement, ils se montreront encore plus idiots, parce que si on attaque une ville meurtrie comme Paris aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu dire.
On a Thierry en ligne avec nous. Thierry est en ligne. Bonjour. Vous nous appelez de Toulouse. Oui. Thierry, bonjour.
Oui, je suis à Saint-Lys, précisément. Merci de me donner la parole. Et vous qui êtes sur le plateau, qui pouvez prendre la parole, la donner, etc., reprendre. Voilà, c'est très sympa vraiment de pouvoir laisser la parole aux gens qui sont effectivement les auditeurs qui sont au téléphone et qui malheureusement ne peuvent pas réagir à ce que vous dites, puisque forcément on ne peut pas non plus les laisser longtemps. J'aimerais dire une toute petite phrase que j'ai lue ce matin. Un symbole brûle et se meurt, mais un peuple demande à vivre et les deux sont à reconstruire. J'ai trouvé ça très très beau. Moi, quand j'ai su hier effectivement pour la cathédrale Notre-Dame qui brûlait, j'étais à la cathédrale Saint-Étienne pour une messe chrismale. Et la personne qui effectivement a eu l'information, c'est moi, dans toute la cathédrale, et qui l'ai donné à Monseigneur Le Gall, qui était d'ailleurs très perturbé pour terminer la messe. Voilà, j'aimerais vous dire également qu'il ne faut pas oublier le peuple français. Certes, ok, d'accord, je suis catholique pratiquant, donc je peux en parler. La cathédrale Notre-Dame de Paris est quelque chose d'extraordinaire, et bien entendu, il faudra la sauver. Mais n'oubliez pas les gens, n'oubliez pas les hommes. Et quand je vois ces familles richissimes donner 100 millions d'euros, 200 millions d'euros, ça, je suis très touché, je suis un peu écœuré quand même, parce que les Français souffrent dans la rue. Combien de personnes suicidées, moi si j'ai à donner de l'argent, et je l'ai fait sur votre antenne, je peux le dire. Donc les personnes qui sont à aider, c'est pas forcément les monuments historiques. Certes, il faut le faire, mais les gens qui meurent, les gens qui se suicident, les gens de force de l'ordre, les agriculteurs, ne pensez-vous pas aussi que c'est un message à donner? Quand je vois Monsieur Macron qui se mobilise comme jamais quand on a une cathédrale qui brûle, et je l'en félicite, mais s'est-il mobilisé de cette façon-là quand les gens meurent dans la rue, quand les gens
meurent dans la rue, voyez des gens qui meurent dans la rue de faim en France?
Regardez, madame, regardez précisément. Vous savez, mon métier était policier. Mmh. Je suis en disponibilité de mon administration. Mmh. D'accord? Eh bien, moi, je les voyais, ces personnes qui mouraient, qui avaient faim.
Ils mangent des sandwichs
et de la viande qui sont javelisés. Je l'ai entendu. Ils sont javelisés et ils le mangent.
Mais bien sûr qu'il y a eu des...
La légitime défense, madame, quand vous dites, oui, il y en a marre de ces gilets jaunes, etc., qui cassent, etc., et la légitime défense, madame. Vous savez ce que c'est que la légitime défense?
On parle de Notre-Dame, madame. Donc vous êtes en train de dire quoi?
Je suis en train de dire que ces personnes richissimes qui se mobilisent, laissons-les se mobiliser, mais les Français devraient donner à ces gens nécessiteux qui sont dans les rues.
Je crois qu'ils donnent, monsieur.
Il y a les prix. Je crois qu'ils donnent aussi.
Les associations n'ont jamais donné autant que récemment. Hein. Donc non, on est dans une augmentation, en tout cas pour certaines, très nettement. Et par ailleurs, l'élan de solidarité, je pense qu'il va avoir des répercussions aussi sur les êtres humains. J'en suis même persuadée. Et pas plus tard que, en attendant samedi, que beaucoup de personnes qui prieront et qui penseront à distribuer et à repartager leur peine et leur argent.
Oui, une réaction.
Moi, je voudrais redire à ce monsieur quand même qu'il y a des choses qui nous dépassent dans la vie. Les Polonais, en 1945, étaient dans un pays ruiné par la guerre, ravagé. La première chose qu'ils ont reconstruit, ce sont les églises.
Voilà. Oui.
Et donc, en réalité, il y a des choses comme ça. Les peuples sont poussés par des pulsions qui sont très largement au-dessus des préoccupations justes que vous dites. Et j'entends que les montants affichés des dons de Arnaud, etc., soient choquants.
On va quand même pas leur reprocher.
C'est quand même un comble. Attendez, mais moi, ne tuez pas le messager. Moi, j'entends qu'il y a des Français qui disent, en effet, on rame toute la journée, et ces gars-là, tout à coup, ils peuvent sortir 100 millions pour un monument.
Non, je dirais pour une cause nationale.
C'est ce que j'allais dire, pour reconstruire le pays.
Moi, je ne suis pas en train de dire que les Français qui pensent ça ont raison.
Non, j'ai bien compris.
Je dis juste que leur ressenti, il faut l'entendre. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent sur ce pays, dans ce pays, mais il faut entendre que ça n'empêche pas de reconstruire Notre-Dame. Voilà. Et qu'il n'y a pas qu'en France que ça se passe ou que ça s'est passé comme ça.
Si je peux me permettre, je propose une mesure qui peut-être est cosmétique, mais je me rappelle que, par exemple, quand il y a eu une partie de la restauration des colonnes de la place Saint-Pierre à Rome, on avait fait une souscription et toutes les personnes qui donnaient avaient le droit d'être inscrites dans un espèce de livre d'or des personnes qui avaient donné, justement. Je pense que on pourra se rappeler des Français, de tous les Français, si on mettra éventuellement une plaque un jour, ne pas dire simplement qu'il y a eu telle ou telle grande fortune qui a donné de l'argent, mais aussi tous les Français, ou voire même mettre un peu une espèce de mur de la gloire pour toutes les personnes qui auront donné même un euro.
D'ailleurs, le site est ouvert là, je crois. Exactement. Que vous pouvez tous donner ça.
La Fondation du patrimoine.
Voilà, la Fondation du patrimoine.
J'entends ce que dit Thierry, qui a du mal à comprendre qu'on donne pour un monument alors
surtout
qu'il y a des
catholiques pratiquants.
Sont dans le besoin, évidemment, mais est-ce qu'on peut ne pas tout mélanger non plus?
Exactement.
Et est-ce qu'il y a, il peut y avoir des causes nationales, comme vous l'avez évoqué?
Positiver. Ouais. Il faut redire que Notre-Dame, à l'époque, les cathédrales, elles étaient construites par des appels au peuple, mm-hmm. qui donnaient de l'argent ou qui venaient travailler sur les chantiers. Mm-hmm. Et Notre-Dame, ce qui fait que sa destruction nous touche autant, c'est que c'est le peuple français, c'est le Parisien qui a construit de ses mains. Hein. Il n'y avait pas à l'époque des entreprises de chantier qui faisaient à la place des gens.
Enfin, il y a des compagnons
Je pense que la reconstruction, tout à fait, mais pas que, la reconstruction de Notre-Dame, on y gagnera tous si on retrouve ce grand souffle médiéval. Ici, ce sont tous les Français qui peuvent y participer, y compris matériellement.
Merci à tous les cinq. Merci à vous, auditeurs de Sud Radio, pour ces débats, pour cette parole libre, parce que vous vous exprimez comme vous le souhaitez sur cette antenne. Et vous retrouvez dans un instant André Bercoff avec cette édition spéciale qui va se poursuivre toute la journée sur Sud Radio. À demain.